Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez FM Plus sur les canaux 91 Montpellier 103.1 Nîmes et c'est de visu le rendez-vous des arts contemporains, un magazine bimensuel proposé par Lise Hoth. Thème de l'émission de ce devisu du jour, du réel à l'abstraction et vice-versa. À propos de l'exposition collective sous le titre de White Spirit à la Galerie Alma à Montpellier jusqu'au 28 octobre, entretien ensuite avec Anne Slasik, dont les peintures en hommage à Paul Valéry sous le titre Petits poèmes abstraits sont présentées à la Galerie Montpellier-Rennes de Samira Cambi jusqu'au 8 octobre et puis dans une exposition de groupe jusqu'au 20 octobre. Détour aussi du côté de la danse avec la programmation de la saison de Montpellier Danse et l'ouverture qui est faite en liaison avec le Centre Dramatique National HTH à Gramont au chorégraphe français Boris Charmatz. La dernière création de Boris Charmatz, déjà invité l'an dernier à HTH, s'intitule « Une danse de nuit ». C'est une flamboyante plongée dans l'inconscient et l'irréel, donnée en live Place de l'Europe à Montpellier les 4, 5 et 6 octobre à 21h. Pour ce spectacle, des pensées abstraites, oui, mais pas sans le corps, pas sans l'épanouissement physique. On écoute tout de suite Boris Charmatz, un point de vue accessible sur YouTube pour ceux qui veulent en savoir plus.
J'aime beaucoup l'idée que la danse, elle se fabrique la nuit en rêvassant. Moi, j'invente les chorégraphies en étant allongé, même si à la fin, on fait des chorégraphies transpirantes, sautantes, virevoltantes. J'aime bien l'idée que la danse a beaucoup à voir au sommeil, en fait, avec le rêve, l'inconscient, l'espace mental, que c'est pas qu'un espace physique, la danse. Et dans la nuit, il y a des fantômes, il y a des choses qui nous font peur. Et c'est vrai que dans l'espace public d'aujourd'hui, notamment en France et en Europe, on est hanté par les corps qui se rencontrent pas, par la sécurité, par le danger. J'ai l'impression que l'espace public, c'est vraiment l'endroit où on doit, nous, artistes et publics, chercher aussi à renouveler des formes d'assemblée. Ça, c'est juste un exemple de ce qu'on pourrait faire comme assemblée chorégraphique. Mais j'avais envie de chercher dans cette direction-là.
Je veux l'amour, je veux l'amour. Voir écran, voir extase, voir extase, voir fera. Je veux l'amour. Ik heb een syndicaat, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment. Worden door het leven niet lang verwend. Ze worden zot. Je veux l'amour. In een kamer, op het strand, in de lift, op de tram.
Je veux l'amour, c'est le titre phare que l'on est en train d'entendre du chanteur, guitariste et pianiste Raymond Van Het Groenewoud. Il donne le ton aux recherches d'assemblée dont Boris Charmatz, que l'on vient d'entendre, creuse le sillon dans sa danse de nuit. Le compositeur belge a écrit la partition sonore de Belgian Rules, création du chorégraphe Yann Fabre qui sera accueilli en décembre, toujours dans le cadre de la saison de Montpellier Danse avec le Centre Dramatique National HTH. Cette création Belgian Rules se veut, je le cite le chorégraphe, un art de la protestation, tout comme ce Je veux l'amour. Question incandescente de ce devisu du jour, qu'est-ce que l'abstraction sans le réel de l'amour, n'est-ce pas ?
Dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia en twijfels en vooral veel dorst. Je veux l'amour, je veux l'amour in die hel.
Je Cheminement vers l'abstrait, conférence passerelle du 12 novembre 2012 par Jean-Patrice Courtois, maître de conférence à l'Université de Paris-7 Diderot.
Alors, l'abstraction. L'abstraction, vous allez me dire, c'est ce que m'a dit Daria en effet, l'abstraction en peinture, on n'y comprend rien. Ça tombe bien, c'est exactement quand on ne comprend rien qu'il faut expliquer. Parce que si c'était quelque chose que tout le monde comprend, alors à quoi sert d'expliquer et d'aller vers la compréhension ?
L'abstraction, c'est un peu comme l'amour, peut-être même comme l'amour de la musique. Cela se sent dans l'interprétation de Martha Argerich pour ce concerto en sol majeur de Ravel. Je ne peux évidemment n'en donner qu'un tout petit extrait. De visu reste sur le thème de l'abstraction. Comment faut-il comprendre l'abstraction et comment ? Par les sens, par l'esprit, par les deux peut-être. C'est en tout cas l'esprit qui anime l'actuelle exposition White Spirit à la galerie Alma à Montpellier jusqu'au 28 octobre. La galerie qui vient de changer d'adresse après avoir déménagé du quartier de la gare vers un espace plus petit au 5 rue du Plan du Palais dans le centre-ville propose donc une exposition collective de 5 artistes engagés dans la couleur blanche, couleur qui s'avère aussi une matière tout simplement pour certains d'entre eux. On va écouter donc un entretien que j'ai eu avec la directrice de la galerie, Marie-Caroline Lermat. Elle évoque ce qui a motivé le choix de ce White Spirit, de son goût pour l'abstraction, ainsi que les raisons de son déménagement récent, mais encore un peu de Martha Argerich.
Des choses qui, partant du réel, opèrent des croisements entre le réel et l'abstraction. Cette exposition porte un titre qui doit être entendu, je pense, sous plusieurs sens, puisqu'elle s'appelle « White Spirit hein, ». Et donc, elle rassemble 5 artistes. Donc, quelques mots sur ce titre et les choix qui l'accompagnent.
Alors, le choix du titre, il s'est fait un petit peu sur une boutade en disant qu'effectivement, en faisant tous les travaux, etc., ça allait sentir le solvant quand j'allais ouvrir. Et donc j'ai dit oui, pourquoi pas, mais la peinture White Spirit, c'est fini depuis longtemps. Et voilà, et le White Spirit, c'est un diluant de la peinture qui est assez connu. Et donc c'est aussi l'idée de la transparence et du blanc. Et réouvrir un nouveau lieu, donc là, 5 rue du Palais, le plan du palais, c'était une nouvelle page blanche, mais en même temps il y avait cet élément quand même de continuité, et l'idée du blanc dans cet espace assez petit s'est imposée assez vite, parce que le blanc c'est quelque part aussi une forme d'invisibilité, alors comment dans cette invisibilité faire apparaître quand même quelque chose. Et donc les artistes, les 5 artistes qui ont été retenus pour ce projet-là ont tous en commun de travailler soit le blanc, là finalement, le blanc comme couleur,
oui, ou comme matière.
Comme matière. Aussi, ouais. Donc on a Jean-Baptiste Carion avec une sorte de colonne en grès blanc où on voit un module, donc un cube qui va s'écraser progressivement en tombant de sa hauteur, là qui constitue une petite colonne improbable, fragile et merveilleuse. Il y a également ces empreintes du vent dans de la cire, Finalement, il a créé un dispositif avec un flux d'air constant et puissant qui va déformer une masse importante de cire de bougie, et créer comme ça une espèce de relief, de géographie qui est la trace de ce vent.
Oui, on a l'impression de
voilà. Alors, on a à la fois cette matière blanche qui est la cire, et on a en même temps ce souffle qui est, dont la présence est rendue visible par la trace qu'il a imprimée dans, l'épaisseur de la cire. Également, je dirais, dans la deuxième partie du nom White Spirit, il y a Spirit et Spiritisme. Et donc là, on revient sur Eric Manigault avec un très grand dessin qui fait apparaître une photo d'une médium qui s'appelait Stanislava, photo réalisée en 1913, où on la voit expectorée avec de plasme. Et donc, à partir de cette toute petite photo, il a fait un dessin gigantesque qui, quelque part, est très énigmatique au premier regard. On ne comprend pas le sujet, et quand l'histoire arrive, elle devient tout à fait passionnante et va ouvrir sur l'exposition de Drogo. Ensuite, il y a Luca Gili, qui est un photographe italien qui travaille des espaces blancs et surexposés. Donc on a une sorte d'espace complètement
dépassé. Donc ce sont des photographies.
Ce sont des photographies.
Voilà. Et il y a aussi donc une sculpture.
Thierry Dalkema, qui travaille sur les anamorphoses et qui est un sculpteur qui a énormément travaillé le plâtre. Naturellement, je représente une sculpture blanche en plâtre qui est une anamorphose. Et je rappelle que Thierry Dalkema est un artiste qui habite Nîmes, qui a fait partie du groupe ABC et qui est un sculpteur qui a une œuvre maintenant tout à fait importante et considérable et qui vient d'avoir un parc de sculptures en Hollande. Donc voilà, il retourne dans son pays d'origine.
Bien, donc l'esprit du blanc, l'esprit à partir du blanc. Un petit peu du moins là-dedans, c'est un petit peu l'esprit que vous voulez aussi mener pour la suite, qu'on savait pour la suite.
Alors,
est-ce que ça définit comme ça un fil?
Je vais rester évidemment fidèle à l'esprit, entre guillemets, de la galerie, qui était plutôt lié à l'abstraction, mais voilà, peut-être en modifiant quand même un peu les codes de l'exposition, en allant évidemment vers moins d'œuvres, et parfois vers des associations qui sont plus inattendues, rapprochées peut-être de propositions qui vont avoir trait peut-être aux sciences, peut-être aussi à l'histoire, et des monographies comme j'en ai fait régulièrement. Mais voilà, donc je ne quitte pas du tout mes artistes, je reste fidèle, mais peut-être dans des dispositifs en tout cas plus économes en nombre d'œuvres, ça c'est évident, mais peut-être aussi dans une présentation.
Plongé dans l'univers marin insondable et ondoyant avec la somptueuse symphonie La Mer de Claude Debussy, plongé grâce à Debussy pour cette troisième partie de De Visu dans les univers aquatiques et mystérieux de la peintre Anne Slasik, dont on peut voir les peintures à la galerie Samira Cambi à Montpellier jusqu'au 20 octobre. Née en 59 à Narbonne, l'artiste partage son temps entre ses deux ateliers, l'un à Paris, l'autre dans le Gard. Sa dernière exposition à Montpellier remonte à 2011 à la galerie Trintignant. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques en région, dont celle du musée PAB d'Alès, qui lui consacrera l'an prochain une exposition en collaboration avec la bibliothèque de Carré-d'Aranime. Pour l'abstraction, thème de notre De Visu, Anne Slasik est pour ainsi dire née dedans. Son actuelle expo à Montpellier s'intitule « Le petit point abstrait », un hommage à Paul Valéry. Parler d'abstraction avec Anne Slasik, c'est donc parler de peinture, peut-être, mais surtout des liens entre le visible et l'invisible, entre le réel et son contraire, entre la peinture et la poésie. Tout poème n'ayant pas la précision exacte de la vie ne vaut rien, se plaisait à dire Paul Valéry. Avec Anne Slasik que l'on va entendre, c'est en doute une indication pour peindre, mais aussi un mode de vie.
Thank you.
au départ, il y a une, la connaissance par Maïté Vallès-Blaine, la conservatrice du musée Paul Valéry de Sète, de mon travail en relation avec la poésie et les poètes, puisqu'il y a eu récemment, l'année dernière, une exposition à la maison de Victor Hugo à Paris autour d'un poème de Victor Hugo, La Pampe de la Rêverie, pour lequel j'étais le peintre de l'exposition, pour lequel j'ai peint une série de toiles et un grand livre. Il y a eu ce travail autour de Mallarmé en 2012, voilà, pour le musée donc Mallarmé, autour du texte Le Nénuphar blanc de Mallarmé, qui est un très beau poème en prose. Et quand j'ai rencontré Maïté Vallès-Blaine par hasard dans l'expo Turner d'Aix, et elle me dit venez me voir, prenons rendez-vous, donc j'y vais. Et là elle me dit voilà, moi j'ai un projet pour vous, vous avez travaillé sur Paul Valéry avec un projet d'exposition, mais je veux des grands formats. Un projet voilà, d'édition de livres d'artistes, etc. Donc, je m'y suis mise, quoi. Donc, Valérie, moi, j'avais étudié à l'université, puisque je viens de la fac, etc. L'amoureux de la peinture, enfin. Mais je n'avais pas complètement lu à fond, et c'est une poésie qui n'est pas facile. Donc, j'ai passé quelques semaines, deux mois, à lire Valérie, à partir des écrits pour Mallarmé, quand même, je suis partie de ça. Son amour pour Mallarmé et puis je suis tombée sur ses poésies perdues, voilà, de ses petits poèmes abstraits qui sont des petits textes en prose issus de ses 30 000 pages de carnet qu'il a écrit à un moment de sa vie après la crise de Gênes, enfin sa crise existentielle, et jusqu'à la fin de sa vie il a tenu un carnet. Tous les matins il allait nager dans la mer. Et ensuite, il prenait des petites notes. Et ces petites esquisses qui sont absolument délicates, enfin, qui parlent du rapport à l'eau, du rapport sensuel à la lumière, etc., bon, complètement, c'est magnifique.
Alors, quoi. On peut même dire que c'est ce qui justifie le rassemblement de ces petits poèmes abstraits. Hein, parce qu'il y a quand même une tonalité colorée dominante dans le bleu.
C'est l'idée, c'est la Méditerranée. Et puis, il y a un rapport au texte, puisque moi, dans mon rapport, j'illustre pas Valérie, c'est une peinture abstraite, enfin, mais c'est ma vision, c'est un ressenti. Donc, à l'atelier, j'ai travaillé en lisant, en ouvrant tous les matins le livre, en me plongeant dans les textes et en réagissant, en fait, avec mes moyens de peintre, en fait, qui sont... voilà, je broie la couleur, je travaille avec de l'essence et je fais venir sur la toile une matière qui me parle.
Mais on a aussi la sensation de matière un peu nuageuse, de matière qui se superpose, le désir d'évoquer la profondeur de l'eau.
Oui, bien sûr. Il y a des petits textes de Valérie, je pense qu'il faut revenir à ça en fait. Je suis désolée de vous... Vous voyez, par exemple, hein, un texte de 1935, c'est PPA, poème et PPA, c'est 18-277, parce que tout était numéroté. 5 heures du matin, mer pâle, aussi plate et peu réelle que possible, lavée avec beaucoup d'eau vers le bas du ciel, unie et semblant immobile à jamais. Voilà, c'est un petit croquis...
Vous en avez un autre aussi qui peut faire comme ça ressentir ce à partir de quoi vous travaillez en fait.
Oui. Alors, que faire dans un autre, donc 21, numéro 164 de 1938, poème et PPA, que faire de tous ces incidents de lumière et d'obscurité, de ces masses et de ces détails infinis, suspendus, hérissés, de ces formes sur quoi la main de l'œil passe et qu'elle éprouve, selon le rugueux, le poli, le nu, le poilu, le coupant, le mouillé et le sec.
Alors là, c'est intéressant, ces incidents de lumière, hein, parce qu'il y a beaucoup de désir de capter la lumière aussi dans ce travail où on a l'impression d'avoir comme ça une illusion de profondeur de la mer, et en même temps d'avoir beaucoup d'éclats lumineux qui la caractérisent.
En fait, la notion de profondeur est intéressante, fait importante dans mon travail, et c'est vrai que techniquement, je travaille à la manière des anciens, par glacis successifs, c'est-à-dire que le temps est tout de même intégré dans ce travail, le temps de l'huile, parce que vous savez qu'une huile met quand même 6 mois complètement à être sèche. Donc, par rapport à l'acrylique, je déteste l'acrylique parce que ce sont des couleurs qui contiennent tout du blanc, et surtout parce qu'elles sèchent immédiatement, il n'y a pas de repenti possible. Or là, je remets de l'essence 2 jours, 3 jours après, et la matière bouge à nouveau, on peut l'enlever, on peut creuser la toile. Mmh. Et
Il y a un travail avec des sous-couches, il y a des verts sous les bleus, il y a des violets, il y a des choses qui remontent à la surface. Donc la profondeur, c'est une matière de la couleur qui travaillait dans son épaisseur.
Et ensuite, là-dedans, vous faites intervenir des éclats lumineux, des éléments lumineux d'ailleurs qui peuvent rappeler les aurores boréales, qui peuvent rappeler des phénomènes lumineux un peu singuliers, de reflets dans l'eau ou d'autres...
C'est l'avantage de l'œuvre abstraite, de la vision abstraite, c'est qu'elle ouvre à toutes sortes de lectures. Et vous, vous y projetez cela, et puis d'autres gens peut-être verront des fonds sous-marins, hein, vous voyez, mais en tout cas, c'est pas complètement fermé.
Toujours sur FM+, et c'est De Visu, en compagnie de la peintre Anne Slasik. Petit intermède musical que nous écoutons du côté de Rahim Alaj, compositeur et joueur de oud d'origine irakienne et naturalisé américain.
Dans un monde hyper réaliste.
Exactement, ça, comme sûr. Valéry, quoi.
Oui.
Il se positionnait là-dessus et de façon très claire.
Il y a ces sensations dont il parle, de rugueux, de lisse. On a des sensations aussi.
Il y a des aspérités.
Des aspérités.
Oui. La matière accroche, je la dépose pas forcément avec un pinceau. Il y a des raclettes, il y a des outils différents, il y a des empreintes.
Il y a une œuvre que vous présentez sur votre site. Qui porte le titre de Traces de doigts dans le vide. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, est-ce qu'elle travaille ?
En fait, c'est le titre qui m'a intéressée. C'est un texte de Pentti Ulapa, qui est un poète finnois. C'est un livre magnifique, Traces de doigts dans le vide. C'est en fait le titre d'un poème.
Je voudrais qu'on élargisse un petit peu, effectivement, qu'on lève le voile petit à petit sur ce qu'est cette peinture, parce qu'on ne peut pas la décrire. Hein, l'abstraction a cette caractéristique, c'est qu'elle échappe à toute description, on va dire, circonstanciée précise, parce qu'elle est justement très ondoyante, très mystérieuse, faite d'infimes éléments qu'on ne peut pas tous percevoir. Néanmoins, il me semble que ce qui marque votre production, depuis que je l'ai découverte moi-même, donc dans le milieu des années 2000, qu'il y a une forte relation à la nature. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui caractérise aussi les choses qui sont là, au-delà de l'évocation de la mer ? Est-ce que c'est ce rapport à la nature qui caractérise votre production?
Peut-être, je ne suis pas...
J'ai noté, hein, les
fleurs, je ne suis pas du tout hostile à cette idée, évidemment.
Oui, oui.
Je pense qu'en même temps, il y a ce rapport à l'extérieur. Enfin, bon, je suis quand même... C'est important. Mais l'eau est importante aussi pour moi.
L'élément liquide, vous voulez,
je suis dans l'eau.
Vous avez donc, vous me dites que vous vivez toujours dans le Gard, vous avez toujours une maison dans le Gard, bien que vous viviez aussi à Paris. Votre atelier est tourné vers l'extérieur.
Vers un jardin, oui. Vers dans un jardin.
Vous allez visiter d'abord le jardin, ou enfin vous déambulez dans le jardin avant d'aller dans l'atelier.
Je traverse toujours le jardin pour aller. J'ai une petite cour avec vraiment plantée, etc., avec une verrière qui donne dans un jardin, et j'ai aussi un grand terrain qui a été complètement ravagé par les sangliers il y a 3 jours, d'ailleurs.
Déjà?
Ah oui, ils cherchent je ne sais pas quoi, des escargots. Oui, oui, non, mais je passe dans le jardin.
Mais là, vous n'êtes quand même pas allé devant la mer pour...
Ah non, hein.
Donc c'est en
non, je peins pas des, je peins pas la mer, je peins pas le ciel, je peins pas. C'est Matisse qui disait c'est pas parce que c'est vert que c'est de l'herbe et c'est pas parce que c'est bleu que c'est du ciel. Hein. Mm-hmm. Mais je pouvais pas faire ce travail sans le bleu. Pour mm-hmm. moi, c'était quand même.
Le bleu et le vert, comme par hasard, on est de les citer. Ah ouais. Oui. On est dans une gamme qui affleure ce vert turquoise, qui peut être celui de la mer d'ailleurs, hein, mais qui peut être aussi celui des arbres, celui de la nature en général. En fait, oui, des impressions colorées que la nature laisse sur l'arbre.
Ceci dit, le tableau, là, se suffit à lui-même. Hein. C'est une œuvre, la peinte, et c'est d'abord une peinture. Mm-hmm.
Dans les manières de peindre, tout à l'heure vous disiez que vous utilisez plusieurs types d'outils. Je voudrais qu'on revienne sur certains d'entre eux parce qu'on a l'impression qu'avec ce raclet ou cette raclette, je ne sais plus comment vous l'avez
c'est
nommé.
C'est pas des raclets, c'est des outils durs.
Hein, vous éliminez,
ça peut être des cartons,
vous éliminez certaines des pigments que vous avez placés sur la toile ou mm-hmm. vous contribuez à opérer quelque chose qui relève de l'effaçage ou qui relève du
je crois que j'enlève autant que je dépose sur la toile. Et le travail de l'essence ravine aussi la toile. Il y a vraiment beaucoup d'éléments avec des choses très claires qui sont l'essence a complètement raviné la matière de la toile. Et je déteste ce qui brille. Donc la matité de l'huile est vraiment importante dans mon travail. C'est-à-dire que je trouve que ce qui brille met un écran entre nous et l'œuvre, et la matité est vraiment importante. Parce que ça permet d'entrer complètement dans le travail, dans sa proximité en fait.
Oui, de faire corps.
De faire corps dans la vision quoi en fait.
Ouais. Et même peut-être même du point de vue physique, non, parce que vous travaillez tout ça.
Alors que ce qui brille met un écran entre nous et l'œuvre en fait.
Ouais.
Et joueur de oud Raïm Alhadj accompagne aujourd'hui De Visu au moment de l'entretien qui a lieu avec Hans Lassik à l'occasion de son exposition à la galerie Samira Combi. Petits poèmes abstraits, un hommage à Paul Valéry. L'émission continue.
Est-ce que finalement vous êtes d'accord pour évoquer ce rapport électif que vous avez avec la nature, mais on sent que c'est un hommage rendu, c'est un chant. Il y a quelque chose de musical dans ce travail, non ?
Sûrement, oui.
Vous-même, vous travaillez en musique, non pas forcément ?
Non, mais j'ai pas mal travaillé pour des œuvres musicales, pour des... Voilà, j'ai peint, il y a quelques années, un jardin pour Elsa, pour une exposition, par exemple, à la Maison Aragon, Elsa Triolet, qui est un lieu où les tombes d'Elsa et d'Aragon se trouvent sous les hêtres. Et ces tombes sont sonorisées par les œuvres de Bach, jouées par Rostropovitch en permanence. Donc l'univers musical, quand on est accueilli par des sonorités. Et donc quand on m'a proposé de faire une exposition dans ce lieu, j'ai créé un jardin pour Elsa, qui était sonorisé à partir d'une œuvre de Keja Saariaho, qui est une compositrice actuelle finnoise, et qu'on entendait, vous voyez, il m'est arrivé, quand il y a eu l'exposition Carré-Sainte-Anne, à l'invitation des amis du musée Fabre, il y a quelques années, j'avais fait cette série autour d'une œuvre d'Arvo Pärt qui était sonorisée aussi. On entendait l'œuvre en s'approchant des tableaux.
Voilà, donc, oui, c'est pas simplement la musicalité.
Puis j'ai fait des
vert,
choses
quoi, parce que, voilà.
pour le Licht de Stockhausen, par exemple, j'ai fait un ensemble de toiles. Et en retour, il y a des musiciens. J'ai par exemple un compositeur d'orgue qui a créé. Un ensemble pour 7 de mes grands tableaux, enfin pour l'avril, et une œuvre qui est créée sur orgue et qui est jouée en Allemagne en ce moment. Donc ça s'appelle pour 7 peintures de l'avril d'Hans Lassik.
Donc c'est pas simplement.
Il y a des allées-retours.
Oui, voilà, c'est ça. Juste
que je voulais dire. De même que les poètes ont écrit pour moi des textes dans mes catalogues ou des textes poétiques pour des livres, il y a des musiciens voilà, qui ont aussi...
Pour réaliser des livres peints, hein, vous avez évoqué tout à l'heure des expositions récentes et puis d'autres à venir. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qui vous a déterminé du côté du livre peint. Et pourquoi appelle-t-on ça les livres peints ?
Parce qu'en fait, pour peindre, je n'ai pas besoin du support de livre, du livre en fait. Je peins sur des toiles et des grands formats, j'ai beaucoup de... Voilà. Donc, ce qui m'intéresse dans un livre, c'est le rapport au texte. Je suis depuis toujours, moi, une lectrice, en fait, de poésie. En fait, j'ai une bibliothèque importante. Enfin. Et donc, c'est le fait de pouvoir croiser à un moment donné dans un objet qui s'appelle un livre, qui est particulier puisqu'on en tourne les pages, même si parfois il se déploie
d'une autre façon.
D'une autre façon, en accordéon ou autre. C'est croiser de couleurs, en fait, avec des mots. Et bon, le rapport au livre, c'est d'abord cela.
Est-ce qu'on pourrait dire que les petits formats qui sont issus constituent des pages d'un livre ?
Non, parce que le texte, il est imprimé, c'est de la typo, c'est une lecture successive, c'est un objet, un livre, c'est un volume, et c'est un objet très particulier.
Dans le rapport que l'on peut entretenir avec lui.
Et moi, ce que j'aime, c'est pas... J'ai fait de la gravure, mais ça me... Enfin, je suis plus dans la couleur que dans la ligne, dans le trait, donc je ne suis pas très graveur. Ce que j'aime, c'est déposer de la couleur dans les livres. Donc, je peins chaque livre, et donc ce sont chaque fois des originaux. Voilà. Et c'est ce que j'aime, en fait.
C'est-à-dire que vous peignez...
Et la notion de livre peint, c'est que chaque fois, c'est un livre unique, en général. Oui. Même si je travaille, en général, pour des éditeurs, on fait une trentaine d'exemplaires, bon, parce qu'il faut économiquement, quand même... Que l'éditeur s'en sorte, ça coûte cher de réaliser un livre d'artiste, enfin, avec une typo au plomb, des emboîtages, etc. Donc il faut bien que commercialement il puisse en vendre, et donc il faut en faire un certain nombre. Mais moi je tiens beaucoup à la notion de livre peint.
De cet objet-là, de ce, oui. qui entretient une relation singulière à l'individu, plus singulière que le tableau.
Ah oui, parce que le rapport avec un poète est. C'est une rencontre quand même, comme dans la vie, quoi. On se rencontre, il y a un face-à-face. Donc pour chaque livre, j'ai des tas d'histoires qui sont des aventures humaines, en fait, de rencontres, de gags, de choses. Et puis bon, il y a toute une génération quand même de gens avec qui j'ai travaillé qui part, quoi. Beaucoup de poètes décédés, et ça me... Dans ma collection de manuscrits peints, il y a une trentaine de poètes décédés, quoi. Voilà.
Mais il y a un peu de mélancolie, quoi, là-dedans.
Ouais, il y a de la mélancolie, mais en même temps, nos livres sont là, ils existent par-devers ça, et ça, c'est important. Donc, je pense à Michel Butor, à Gaston Puel, à Jean Guéligny, qui nous a quittés il y a 2 mois. Enfin, je veux dire, c'était des amis très proches, qui sont venus dans mon atelier, qui m'ont donné, avec des mots écrits, qui ont mis des mots sur mon travail. Et j'ai beaucoup reçu de ces personnes-là.
Alors vous direz que du coup la peinture elle est du côté de la présence presque, je dirais, sans cesse renouvelée.
Oui, parce que moi je travaille tous les jours dans mon atelier, donc c'est un travail quotidien et ce rapport au travail est vraiment important.
Vous avez une discipline?
Absolument.
Le matin, l'après-midi?
Tout le temps, tout, je passe mes journées.
Il y a des moments de pause.
Quand j'ai des expos, il y a quand même.
C'est l'effervescence, oui.
Et puis il y a des mouvements entre le sud et le nord, puisque je suis entre le Paris et puis le sud. Mais si je n'ai pas ce rapport à mon travail, je ne suis pas bien, quoi. C'est mon équilibre, c'est ma respiration, en fait.
De visu, votre rendez-vous bimensuel des arts contemporains, émission proposée par Lise Hoth, se termine aujourd'hui. L'émission a été accompagnée à la technique par Stéphane Marin. À prévoir sur vos tablettes, alors tout d'abord au Centre Dramatique National HTH à Grammont, deuxième édition du MEC Festival, les 12, 13 et 14 octobre, festival d'art numérique performatif et de création audiovisuelle contemporaine. HTH présente cette fois-ci des productions maison créées par ou en collaboration avec HTH. Renseignements sur le programme sur le site www.humaintrophumain.fr. À signaler aussi 2 expositions, l'une en cours à l'espace Bagoué sur l'esplanade à Montpellier, exposition consacrée à Jordi sous le titre Ecce Terra jusqu'au 3 décembre. À prévoir enfin à Carré d'Art à Nîmes, une exposition sur le mouvement mouvement Support Surface du 13 octobre au 31 décembre. Vous pouvez toujours podcaster l'émission de Devisu sur notre site radiofmplus.org à la rubrique émission culture, art, théâtre et fiction, page Devisu. Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de FM+, nos programmes continuent.